Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Retransmission. Aujourd'hui, nous allons écouter un nouvel épisode de la série documentaire « Transmettre l'affaire de toutes et tous », un projet porté par l'ADR de la Loire. Épisode 3, les nouveaux visages de l'installation. Bonne écoute.
Transmettre l'affaire de toutes et tous. Épisode 3. Les nouveaux visages de l'installation.
Quand les médias abordent le sujet de l'installation agricole, il est fréquent d'entendre « les néo-ruraux idéalisent le métier de paysan-paysanne ». Qu'est-ce qui est transmis aux personnes qui s'installent ? Des terrains, des bâtiments ou des savoir-faire ? Qu'est-ce que ça fait de reprendre la ferme de ses parents ? Et au contraire, de reprendre une ferme quand on n'est pas issu du milieu agricole. Dans cet épisode, nous sommes allés rencontrer deux jeunes agriculteurs, Lucas, Adrien et Adeline, qui ont repris une ferme chacun à leur façon. Muriel, la mère d'Adrien, formatrice en lycée agricole, nous parle des envies des jeunes actuellement en formation. Gaëlle, directrice des fermes partagées, porte un regard tourné vers le collectif et sur d'autres manières de s'installer aujourd'hui. Ceci est le troisième épisode d'une enquête radiophonique sur les enjeux de la transmission dans le monde agricole aujourd'hui.
J'avais eu des nouvelles de la ferme de Malincourt, où j'avais été en stage dans cette ferme sans électricité. Elle était vendue et le jeune ménage était à Auch, dans le Gers. Le chef de culture m'invita, sachant que je voulais prospecter la région pour visiter des fermes. J'en ai vu de toutes les sortes. Très mauvaise terre en pente ou sur un bon plateau où on faisait beaucoup de cultures maraîchères. Si les prix étaient intéressants, la plupart des maisons étaient encore en terre battue et les fermiers ne me semblaient pas motivés pour leur travail. Je ne me voyais pas du tout m'installer dans ce trou perdu, moi qui ne connaissais que les terres riches. Malgré tout cela, la confiance en l'avenir ne nous quittait pas. Les difficultés, au contraire, nous semblaient normales. Nous étions deux pour les résoudre. Mon père m'avait fixé vaguement le plafond de ce qu'il pouvait me prêter. Nous avions, Thérèse et moi, un peu d'économie, et il était impératif d'emprunter beaucoup d'argent. Je décidai de visiter la Somme, me basant sur une ferme de 30 à 40 hectares. J'y ai passé des semaines entières à comparer. Les unes étaient bien équipées, mais trop chères. Les autres étaient abordables, mais il fallait acheter du matériel. Je n'avais personne pour me conseiller. Et je visitais 6 à 8 fermes par jour. Je n'ai jamais su pourquoi il y en avait tant à céder. Et il y en avait de toutes les sortes. J'en retenais une, me disant... Celle-là me plairait, mais elle était au-dessus de nos moyens. En réalité, j'étais très réticent aux terres très morcelées. Ayant connu dans les grandes fermes des plaines assez grandes, je me voyais mal cultivée dans ces champs de petite surface. J'allais aussi dans l'Oise, et bien sûr toujours tout seul. Qui aurait pu me conseiller pour choisir ? Je suis revenue bien des soirs, fatiguée, découragée, me disant « je reprends une grande ferme et je m'endette jusqu'au cou » où je cultive une petite ferme et mon revenu ne s'améliorera pas.
Il faut bien... C'est ma quatrième saison, il faut bien quand même... Du coup, la ferme, vous avez en face de vous comment elle est structurée. Donc, moi, je suis installé sur une ferme qui est quand même de taille maintenant un peu importante. Sur 23 hectares. Et en fait, il y a un bloc de 12 hectares qui part de là-haut et qui va jusque là-bas en face, qui me permet donc de faire la rotation des légumes sur toute la partie plus basse et en face. On voit une parcelle travailler en face, là-bas, ce sera les futurs légumes aussi. Donc il y a 6 parcelles pour la rotation de légumes. Et tout le haut, par contre, où c'est un peu plus pentu, où il y a un peu moins de sol, moins adapté aux légumes, du coup là je fais des fruits rouges. Ouais, il y a un rêve à la base, je pense, quand même, de toute installation. Sinon, je pense pas qu'on s'installe. Si on regarde que concrètement les indicateurs économiques ou de temps de travail, on fait pas ça si on rêve pas un petit peu. Lucas Arimpus, du coup, je suis installé sur la commune d'Avez, en production de fruits rouges et légumes en bio, avec un peu de grande culture aussi. J'ai 33 ans, je suis installé depuis, c'est ma 4e saison, seul, et avec des salariés quand même, et avec le projet surtout que ma compagne rejoigne la ferme à partir de janvier 2023. J'ai fait des études d'ingénieur en agriculture, environnement, développement local sur Lyon, à l'ISAR à Lyon. Et à la fin de mes études, a germé un peu l'idée d'un projet agricole éventuel. J'ai fait d'autres choses entre-temps quand même, puisqu'à la sortie de l'école, j'ai été ingénieur d'études au sein du centre de recherche de l'ISARA. Et après, j'ai été chargé de mission dans les collectivités locales des Monts du Lyonnais, pendant un peu plus de 4 ans, je crois, sur en charge des questions de transition énergétique et de développement agricole. Et du coup, il y a eu un moment donné, je me suis dit, là, il faut que je projette la suite, quoi. Et voilà, donc j'ai trouvé un boulot d'ouvrier agricole. Puis pendant cette période d'ouvrier agricole, j'ai été recontacté par un paysan que j'avais accompagné sur des projets agricoles à l'époque où j'étais chargé de mission. Et du coup, pour me parler d'une ferme qui se cédait à côté de chez eux, et qu'eux auraient aimé en faire une occasion d'installer quelqu'un en association avec eux. Donc j'ai arrêté mon emploi d'ouvrier agricole, j'ai commencé un stage pré-installation au sein du GAEC, voisin. Là. Moi, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que finalement, ça ne me correspondait pas. Que je m'étais toujours dit je m'installerais que en association parce que l'agriculture c'est trop dur et tout. Puis je me dis finalement non parce que je me suis rendu compte aussi que moi avec ma personnalité, ma manière d'être, c'était peut-être pas ce qui allait m'épanouir le plus. Et en parallèle, c'est une période où j'avais rencontré Gilles qui est le voisin mais de l'autre côté et qui lui était à 2 ans de la retraite mais annonçait qu'il était prêt à céder s'il trouvait quelqu'un. Lui, il souhaitait vraiment, il avait une volonté très forte de transmettre. Il voulait vraiment que sa ferme soit transmise. Ça s'est construit comme ça, quoi. Un peu, pas mal de chance quand même. Et du coup, Gilles a été à l'écoute de mon projet et a accepté de se projeter dans une transition vraiment très importante de sa ferme. Et donc, l'accès à l'eau aussi est partagé. C'est aussi un point qui m'a permis de reprendre cette ferme. Ça, c'est un truc important, c'est qu'ici, il n'y avait pas d'eau. L'investissement de l'avenir, les électrovannes. Allez. Donc c'est grâce en fait à la retenue des voisins. Ils m'ont laissé un accès à mon installation de 1/3 du volume pour développer mes activités. Et en fait c'est grâce à ça que j'ai pu structurer cette ferme, en plus des arrangements fonciers.
Alors moi je m'appelle Gaëlle Desormes et je suis directrice générale d'une coopérative, une SCIC, qui s'appelle les Fermes Partagées. C'est un projet qui est travaillé environ depuis 2-3 ans et dont les initiateurs sont des coopératives, des fermes sous forme coopérative qui sont la ferme des Volonteux et la ferme de Chalonne et aussi une autre ferme qui s'appelle Saint-Latier en Isère. Et aussi deux acteurs coopératifs de la filière alimentaire, de la distribution alimentaire bio. Donc ce projet a été créé par l'ensemble de ces acteurs avec l'idée de s'attaquer finalement à l'agriculture et notamment à l'installation en agriculture sous la forme de l'angle d'attaque vraiment du collectif et de la forme coopérative. Donc l'objet des fermes partagées, c'est de pouvoir accompagner des collectifs souhaitant s'installer sur des fermes diversifiées sous une forme coopérative, donc nous quand on parle de forme coopérative, c'est sous forme de SCOP ou de SIC, mais également la possibilité pour des personnes qui voudraient s'installer à titre individuel de bénéficier d'un statut d'entrepreneur salarié en étant hébergé dans notre coopérative d'activité et d'entrepreneur. Donc voilà, les profils qui nous contactent, c'est vraiment ça, des gens à la recherche d'un nouveau statut social et les gens à la recherche de lieux collectifs pour mener, développer leurs activités.
Muriel Richaud-Relier. Donc, je suis nouvellement retraitée. Ma carrière professionnelle a essentiellement été orientée vers l'agriculture. J'ai été agricultrice pendant 35 ans, avec en parallèle, durant à peu près toute cette période, une activité de formation qui s'est intensifiée au fur et à mesure des années, car les enfants devenant grands, demandant moins de temps de présence pour la famille, je passais plus de temps à la formation à la fin, mais toujours avec une activité de production agricole. Donc concrètement, à la fin de ma carrière, j'étais en GAEC avec notre fils Adrien, sur une exploitation qui produisait du lait de vache en agriculture biologique et des volailles fermières vendues en direct aux consommateurs. Et ça, la partie volaille fermière avec vente directe, c'était mon activité. Mais donc, ce que je vais vous expliquer, c'est à partir de ce vécu avec des jeunes qui s'orientent vers l'élevage et surtout vers l'élevage bovin, que ce soit bovin lait ou bovin viande. Donc des systèmes de production qui nécessitent des capitaux importants et qui nécessitent une astreinte auprès des animaux. En termes de constance, je remarque que sur une petite quarantaine d'années, ce sont toujours des jeunes qui sont passionnés, qui font le choix de travailler au sein de la nature, avec du vivant. Alors par rapport à l'évolution du public qui se forme aujourd'hui dans les lycées agricoles, c'est évident qu'il y a une quarantaine d'années, c'était pratiquement que des enfants d'agriculteurs, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Dans certaines classes, c'est moitié de jeunes issus du milieu agricole et moitié hors milieu agricole.
On fait juste le tour, ça devrait correspondre à peu près à 10 minutes, comme ça je reviens, j'éteins l'eau et c'est bon. Cette année, c'est la première année où il y a un peu plus de sérénité dans la gestion de l'outil sous son format, on va dire, un peu définitif, quoi. Donc sur le haut, les parcelles de fruits rouges, là-bas c'est des framboises d'été, là c'est des framboises remontantes, sous les serres là, groseilles, en dessous là on a les mûres. Les soutiens paysans, c'est un point hyper hyper important. J'ai eu des gens qui passent, moi, avec des projets ou des débuts de projets d'installation, etc., qui des fois envisagent de s'installer dans des zones où ils connaissent nulle part et s'imaginent s'y installer sans une période préalable d'atterrissage, on va dire. Et je trouve ça extrêmement risqué. Moi, avec ce que j'ai vécu dans mon installation, le réseau que j'ai ici, et de voisinage direct et moins direct, ça a été central dans mon installation. Ça m'a permis de rapidement être opérationnel, d'avoir du prêt de tout, enfin de matériel, de tout, des conseils sur tout. J'ai tous mes amis d'enfance ici, moi aussi, ça compte beaucoup. En gros, Gilles, lui, donc mon cédant, son attente première, c'était de vendre la maison pour pouvoir, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir se réinstaller sur une commune à une quinzaine de kilomètres. Et donc, du coup, on avait convenu qu'il souhaitait aussi potentiellement vendre les terrains et le bâtiment. Mais du coup, on avait convenu que moi, pour mon installation, on partait sur du fermage et que une fois la ferme lancée solidement, on rediscuterait du rachat du bâtiment et des terrains, quoi. On a eu des discussions régulières pendant plusieurs mois quand même, jusqu'à arriver à peu près à s'entendre, ben voilà, sur le prix de la maison, sur les terrains qu'il allait être possible de reprendre ou pas, parce que c'est pareil, il n'était pas propriétaire de toutes ces surfaces, Gilles, donc il y a eu des surfaces qui n'ont pas pu être reprises quand même. Il y a eu 2 hectares, par exemple, qui ont été repris par un coup de pression de voisins. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi chez Gilles, c'est qu'il m'a laissé faire. Il n'a pas eu un regard sur ce que j'ai fait. Il a été très présent, voilà, avant mon installation. Mais après, par contre, il m'avait transmis les clés, il n'avait rien à dire et il ne voulait surtout pas intervenir. Et ça, moi, ça me va bien.
Ces jeunes qui s'installeront demain ne seront pas tous issus du milieu agricole. Loin de là. Ceci dit, ils s'installeront sur des systèmes qui demanderont peut-être moins de capitaux, ou ils réaliseront peut-être des installations plus progressives, ou ils travailleront plus longtemps en tant que salariés avant d'envisager une installation. Le cheminement sera différent. Alors, il est certain que chaque éleveur aujourd'hui qui souhaite que sa ferme soit reprise aura à accepter un certain nombre d'évolutions sur sa propre exploitation qu'il n'aurait pas forcément vécu si ça avait été son enfant qui avait repris à l'identique. Et ça nécessite que les personnes qui arrivent presque à la retraite soient ouvertes d'esprit. Alors simplement, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a peu de jeunes aujourd'hui qui sont attirés par le fonctionnement en société. Fort regrettable, parce que s'installer en société, dans la grande majorité des cas, c'est rentrer dans quelque chose qui fonctionne, bien entendu, mais avec des capitaux bien inférieurs à ceux qui devront être investis si le jeune s'installe en individuel. D'une manière générale, ils ont du mal à se voir rentrer dans quelque chose d'existant.
Parce qu'elle a mal été repositionnée, tu sais, il y a un creux. Là,
ouais.
Donc je l'ai laissé ouvert, tu la remettras.
Parfait. Si tu veux donner ton avis sur la maison, mais... qu'est-ce que je te fous dehors?
La maison de la ferme, en fait, pour nous, ça a toujours été très clair que c'était celui qui exploitait, qui avait l'élevage à côté, qui devait y habiter. Alors c'est vrai qu'elle nous plaît bien, cette maison. D'une part, c'est nous qui l'avons fait construire, mais d'autre part, on est au calme, on est tranquille, pépère. Bon, mais l'objectif premier, c'est d'installer quelqu'un, que ce soit Adrien ou une tierce personne. Là, en l'occurrence, c'est Adrien, mais la maison, c'est la maison de la ferme. Donc on doit la laisser. En plus, elle est très grande, elle ne correspond plus à nos besoins, quoi, de ce point de vue-là. 185 mètres carrés pour deux retraités, c'est quand même du luxe.
Je m'appelle Adrien Relier, j'ai 35 ans, je suis installé avec ma mère pour le moment, en GEC. On avait des volailles qu'on arrêtait. Je garde que les vaches laitières, avec un salarié à mi-temps et un apprenti, là. Avant l'installation, donc, j'avais fait des études agricoles, donc bac technologique et BTS agricole. Et après, j'ai bossé service de remplacement pendant 6 mois. Je suis parti un an et demi en usine, en chaudronnerie. Et puis, la ferme, ça me manquait un peu, donc j'ai fait 50 salariats dans une exploitation à une demi-heure d'ici. Et après, je me suis installé, il y a 7 ans. J'avais pas le projet de m'installer tout de suite en sortant de l'école, ça c'était clair et net. Puis la ferme était dimensionnée pour mes parents ensemble, pas plus. Puis je voulais aller voir ailleurs avant de m'installer, parce qu'une fois qu'on est installé, on y est pour quand même quelques années normalement. Donc, le parcours de l'installation, j'avais été voir le point accueil installation à la chambre d'agriculture longtemps avant, parce que je savais que les démarches étaient longues, donc pour anticiper un peu, voir comment ça se passait plus précisément. C'est surtout l'après-installation, moi, que j'ai trouvé longue. Toutes les paperasses à fournir pour... justifier de son installation, là, c'est quand même lourd administrativement.
Moi, je souhaitais m'installer... j'aurais pu aller chercher dans les coteaux du Lyonnais, par exemple, où j'aurais pu trouver des fermes en végétal, quoi, purement, et qui auraient pu correspondre avec un réseau d'irrigation. Voilà. Donc, je m'attendais plutôt à une installation carte blanche, quoi. Voilà, c'est-à-dire tout est un peu à créer, et ça m'allait bien. Il y a peut-être de plus en plus de fermes difficiles à reprendre dans le schéma actuel, enfin, voilà, et que c'est un métier qui, quand il est vécu par la famille comme une contrainte, et ben donne pas une image qui fait envie, quoi. Et que je pense qu'il y a pas mal de fermes qui ont aussi perdu le côté joyeux, enfin le sens que ça peut avoir d'être paysan, quoi. Par exemple, nous, on a un territoire laitier. On voit que le contexte laitier tel qu'il est aujourd'hui, rend les choses quand même difficiles. Mais moi, ce que je réalise, et ce qui me fait aussi d'un côté plaisir, c'est qu'on voit aussi des fils de paysans qui s'installent sur d'autres productions. J'en connais deux là sur la commune d'Avez, des fils d'éleveurs d'Avez qui sont l'un allé s'installer dans les coteaux du Lyonnais en légumes bio et un autre qui a repris une ferme pas très loin de ses parents mais en légumes aussi. Et du coup c'est intéressant, ça veut dire quelque chose aussi, ça veut dire que au sein des familles aussi il peut y avoir des ouvertures sur d'autres types de fermes quoi. Moi ça correspond au sens que je voulais mettre dans les choses et c'est pas à garder après, c'est à retrouver un peu mieux maintenant après les deux premières années qui sont quand même qui ont été difficiles hein, clairement, enfin il y a des sacrifices à faire quand même, le temps, l'équilibre de vie familiale, l'équilibre de couple aussi, au niveau je veux dire de partage des tâches par exemple, clairement hein, les premières années ça a pas été ça hein. La présence pour mes enfants, moi j'ai deux enfants en bas âge, on a choisi de le ça ne nous arrête pas dans notre vie d'avoir une ferme, donc voilà, ça a été des fois un peu sport, mais voilà. Et au début, la première année a été assez difficile par rapport à mon lien, à mon fils, quoi. J'avais le sentiment vraiment de ne pas être assez présent.
Il est fini le temps où l'on était agriculteur à vie. D'après François Lefebvre, en 2007, 10 246 agriculteurs ont laissé leur statut de chef d'exploitation avant l'âge de 55 ans. En moyenne, ce sont donc 3 agriculteurs sur 10 qui cessent leur activité avant l'âge de la retraite. Ce métier et les statuts qui y sont associés peuvent ainsi être considérés aujourd'hui comme une étape dans une trajectoire professionnelle. Sociologie des mondes agricoles, Bertrand Hervieux et François Purseigle, 2013.
Non, on est fait à l'idée, ça nous dérange pas d'aller ailleurs.
Adeline Trouche.
Moi j'ai l'habitude de bouger, peut-être qu'on ira dans le Gers. Peut-être aussi qu'on fera pas toute notre carrière ici, hein. C'est pas impossible. Bon, on pense pas à ça maintenant alors qu'on est en train de s'installer, mais on reste ouvert.
Donc ces personnes qui ont quand même qui ont navigué à plusieurs endroits sur plusieurs fermes, souvent ils arrivent en disant bah voilà, nous, moi je me suis rendu compte que si je veux pouvoir combiner du temps libre, la plupart sont assez convaincus que c'est par le biais du cadre collectif que ils arriveront justement à inventer des nouvelles organisations leur permettant de mener cette aspiration profonde qui est je veux être paysan, mais je veux pas reproduire ce modèle où on serait assigné à travailler 90 heures par semaine. Ça touche vraiment toutes les productions, avec à chaque fois une partie élevage et une partie production végétale. Avoir que des vaches, c'est quelque chose qui est, moi, à mon avis, quelque chose qui va être extrêmement... des installations qui vont probablement très peu se faire dans les années à venir. Par contre, se dire, oui, je suis insérée dans une ferme collective où on a plusieurs ateliers et j'ai des astreintes sur plusieurs ateliers, mais voilà, j'ai une polyvalence dans l'organisation de la ferme. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est générationnel, c'est que clairement... ces personnes-là ont aussi besoin d'avoir de la polyvalence, d'avoir une diversité de tâches et de pouvoir tourner, quoi. Et la ferme collective, c'est ce qu'elle permet. Je pense que les fermes partagées, à l'origine, on ne pensait pas avoir autant de contacts avec des futurs cédants et cédantes. Parce que finalement, nous, on s'adresse plutôt à des collectifs. Et finalement, ça, c'est quelque chose pour moi qui est assez nouveau. C'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cédants et de cédantes qui ont compris que leur ferme, probablement, l'avenir passerait par une reprise à plusieurs de leurs fermes. Si vraiment leur souhait le plus cher, c'est de la transmettre, ils sont obligés de faire un pas de côté et de penser les choses autrement. On est persuadé que ces fermes, elles ont de l'avenir, et que leur avenir, c'est pas d'être découpées en morceaux pour agrandir les voisins et les voisines, mais c'est bien de trouver plusieurs personnes pour la reprendre.
En 2018, les femmes représentaient 30,6% des jeunes installés. Autre nouveauté, près d'un tiers des exploitants qui s'installent gardent une activité en parallèle de la ferme. Pour ce petit tiers d'exploitants, l'agriculture devient potentiellement une étape de carrière. En 2020 dans le 1, Hélène Saint-Gier recueillait les propos de François Purseigle, sociologue, et Cécile Gazot, doctorante en sociologie, pour l'article « Il y a urgence à voir des jeunes s'installer ».
Je pense qu'on a, quand on est une femme, il faut encore plus qu'on fasse nos preuves vis-à-vis de tout le voisinage et de un peu tout le monde. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Après, peut-être que je me mets une pression par rapport à ça, hein, mais sur la transmission à proprement dit, là-dessus, ça a été... Enfin, moi, j'avais beaucoup d'appréhension et ça s'est très bien passé. Après, je pense que par rapport surtout aux voisins, c'est là que c'est le plus compliqué. Surtout que je venais pas du milieu agricole. J'avais jamais conduit de tracteur, par exemple.
Par rapport à la place de la femme en agriculture, moi, l'évolution que j'ai vue, c'est qu'il y a une quarantaine d'années, il y avait relativement peu d'installations de femmes, ou en tout cas peu d'installations que l'on appelle installations. Les femmes travaillaient dans l'agriculture, mais en étant conjointes. Puis elles ont obtenu un statut un peu meilleur de conjointe collaboratrice. Elles étaient présentes, elles étaient indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation, mais leur place n'était pas reconnue en tant que telle, et en tout cas elles n'avaient pas droit aux aides à l'installation. Donc au fur et à mesure que les années qu'on a évolué dans le temps, l'agricultrice a pu s'installer en tant que telle, bénéficier d'aide à l'installation, s'installer en GAEC avec son conjoint, son mari. Donc la place a été mieux reconnue, et en tout cas, qui dit aide à l'installation possible dit production indispensable. Alors qu'avant, dans le passé, il y a 35-40 ans, c'était un soutien qui parfois était même un pilier, mais un soutien indispensable, mais qui était tacitement peu reconnu. Donc aujourd'hui, on a des installations d'agricultrices qui ont une production définie, une place bien définie, etc.
Puis on a agrandi avec un logement pour les génisses. Et quand Adrien s'est installé, là, ça a été plus conséquent.
Ben on a, grosso modo, on voit le bâtiment, c'est toute la toiture neuve quoi, qu'on a faite.
Donc on a rajouté
1000 mètres carrés à peu près, hein, je pense, quelque chose près. J'avais un peu l'idée, entre autres, que les vaches faisaient un peu d'espace dans le bâtiment. Déjà, elles sont mieux, nous aussi. C'est un point où tu n'étais pas trop OK au départ.
Ben, il faut financer. Ça crée des soucis de trésorerie, inévitablement. Bon, donc on a quand même ajouté presque 1000 mètres carrés, doublé la salle de traite. Et toi, en individuel, tu as acheté l'ancien bâtiment d'un autre cédant qu'on a réaménagé.
Pour l'avenir de la ferme, je pense que pour eux, c'était quand même moi qui allais reprendre. Mes frères et sœurs ne sont pas du tout intéressés. Et puis, pour eux, à mon avis, c'était sûr que je reprenais. Si je leur disais que je ne reprenais pas, ça les aura plus perturbé eux que moi, à mon avis. Il n'y a pas eu non plus de poids de « il faut reprendre, il faut que ça reste dans la famille, il faut ça... » Il y a eu de la discussion au fur et à mesure, donc ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Il n'y a pas eu de gros points d'achoppement. Si, les bâtiments, les investissements, l'installation, ils trouvaient que c'était un peu démesuré au départ, mais il faut qu'ils ont compris que niveau confort de travail, on s'est retrouvés. Et puis ils m'ont bien laissé quand même gérer le truc à ma sauce, quoi. Il y avait de la confiance, quoi.
Les bâtiments, juste les bâtiments à échelle, là. 110 et en prêt, hein. Là, on a emprunté que 270. Avec 310 avec le DAC.
Et la subvention.
Ouais, mais ça, c'est pas du prêt.
Ah ben oui, non, mais combien ça a coûté?
Combien ça a coûté? Autour de 600 000.
Oui.
Plus après le bol, plus après un tracteur cette année, plus des aménagements de chemin, de bac qu'on a autofinancé.
Je pense que ce qui a fait qu'on... Je me suis installé, c'est que... moi j'en avais envie, puis eux ça les dérangeait pas, et que... Peut-être aussi ils étaient contents, ils le diraient s'ils étaient là, mais... Peut-être un peu aussi que ça reste dans la famille. Les aménagements, grosso modo, c'est moi qui... qui prenait les décisions finales, on va dire. Je prenais l'avis de mes parents, mais c'est, ça a tout été fait à ma sauce, quoi. Parce que un jour, mon père il m'a dit, de toute façon, fais bien ce que tu veux, moi dans 3 ans je suis à la retraite, c'est pas moi qui paierai. Sur la conduite en elle-même de la ferme, on n'a pas changé grand-chose. C'est juste qu'on est passé de 47 hectares à 90, mais avec la même conduite, donc le troupeau a suivi. C'était le même système, mais en 2 fois plus gros, quoi. Pour bosser à deux, après les bâtiments, on a doublé la salle de traite, on a mécanisé le raclage. Après, il y avait aussi l'idée derrière de, quand mes parents étaient plus là, seront plus là, embaucher un salarié. Et le salarié, enfin, en ayant été salarié avant de m'installer, faut quand même des conditions qui aillent bien. Et puis, que celui qui fait le travail le week-end, que ce soit moi ou le salarié, faut qu'on ait du temps libre au milieu de la journée quand on les traite. Et... Au niveau de la transmission, bah, dans le coin, ça reste quand même... Ça s'est créé pas mal de GAEC entre 2 générations, là. Après, moi, je me pose la question de quand la génération la plus ancienne va partir, comment ces grosses fermes, ils vont faire enfin, tout seul. Mon avis, trouver des associés, ça va être compliqué. Pas que les fermes, elles sont pas reprenables, ni qu'elles ne tournent pas, mais c'est plus le manque de personnes motivées, je pense. C'est vrai que l'agriculture, pendant longtemps, on a dit aux gens, tu gagneras ta vie quand tu revendras à la retraite, mais le problème, c'est que le montant de reprise a fortement augmenté, le prix du lait de la viande, il n'a jamais monté, voire il baisse, donc il y a un moment, ça bloque, quoi. Parce que nous, on a grossi tous, on est pas au taquet de ce qu'on peut faire, mais pas loin, donc reprendre des terrains, au bout d'un moment, c'est pour pas les tenir comme il faut.
Quelques jours après, j'allais dans la région de Poix pour voir des gens si misérables, dans la saleté. Puis sur Péronne, où au contraire le fermier était plutôt châtelain. Puis à Bray, sur Somme, où les terres étaient crayeuses et chères. Et je finissais ma journée à Mailly-Maillet et à Auchonvillé. Là, je trouvais une ferme de 60 hectares, très mal soignée, avec beaucoup de chiens-dents tenus par deux jeunes de mon âge, célibataires. La ferme se trouvait dans le village, mais les terres se trouvaient toutes groupées à 3 km de là. Je rentrais à la maison, et sur cette route de 90 km, je réfléchissais à cette ferme, pesant le pour et le contre. Et j'y trouvais des avantages avec la mécanisation. La distance avait moins d'importance et les grands champs faciliteraient mon travail. En arrivant, je m'écriais, à moins de mauvaises surprises quand je retournerai demain, j'ai trouvé la ferme qu'il me fallait. Papa, prudent, m'invita à bien réfléchir avant de discuter l'affaire. Le lendemain, je prenais la route de bonne heure, avec ma bêche et mes bottes, pour prendre quelques échantillons de terre tout en parcourant la plaine. La terre n'était pas du tout homogène. Les chemins étaient mauvais, les pâtures me semblaient irretournables tellement la terre était lourde et compacte. Le bois qui entourait la plaine m'amènerait des lapins. La maison était potable par rapport à tout ce que j'avais visité. Il n'y avait qu'un tracteur à piston, une petite remorque, une vieille moissonneuse lieuse, moi qui avais l'habitude d'une moissonneuse batteuse, et beaucoup de bricoles. En revanche, il y avait une vingtaine de bonnes vaches et quelques truies dans de mauvais bâtiments. Le prix, par rapport à tout ce que j'avais vu, me semblait raisonnable. J'expliquais à mon père qu'il fallait compter acheter du matériel et il en manquait. La récolte de l'année ne suffirait pas. J'étais emballée et j'avais très peur d'affirmer que le choix était bon. Mon père m'invita à me renseigner à des personnes compétentes avant d'aller voir les banques. Cela n'est pas rien d'analyser le pour et le contre. C'est notre vie, de Thérèse et Raymond Houck, issue d'archives familiales.
Transmettre, pour moi, c'est permettre à un jeune de pouvoir prendre la suite.
Le cédant, il transmet un bout de sa vie quand même. Il raconte quelque chose de l'histoire et il y a cet arbre qui a été planté par...
C'est le passage entre deux personnes, on va dire, pas forcément d'une génération à une autre, mais d'un paysan qui laisse sa ferme à un autre et qui a un changement de personne, des fois de système. C'est pas juste signer le bout de papier sur le coin de la table avec le prêt de la banque, quoi.
Que ce qui a été réalisé ait une certaine continuité.
Il y a la source qui était là, c'est un peu ce qui est transmis, c'est un ressenti de l'environnement, des morceaux de vie un peu aussi, quoi. Mais de vie, je veux dire, j'ai fait ci ou là j'ai fait ça, non, c'est d'attachement à son environnement et du coup de connaissance un peu intime. Moi, on m'a pas transmis un outil de travail.
Un grand merci à Florentine Favier et Valérie Gabriel pour l'enregistrement des textes additionnels, ainsi qu'à Thérèse Houck pour le prêt de l'archive familiale « C'est notre vie ». Dans cet épisode, vous avez pu entendre Lucas Rimpus, Muriel Richaud, Adrien Relier, Gaëlle Desormes, Adeline Trouche et Dominique Lataste. Un grand merci à elles de nous avoir confié leur témoignage. Cette série radiophonique a été co-réalisée et écrite par Élodie Butin-Federici, Claire Leroy, toutes deux accompagnatrices installation et transmission, et Clémence Koulik. Prise de son, Simon Pocher. Accompagnement à la réalisation et à l'écriture, au montage et au mixage, Clémence Koulik. Ce projet est porté par l'ADR de la Loire, association du réseau de l'agriculture paysanne.
Vous venez d'écouter le troisième épisode de la série documentaire Transmettre l'affaire de toutes et tous, portée par l'ADR de la Loire. Merci d'avoir écouté cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur jetfm.fr. Tout de suite après, retrouvez Chemin d'Afrique par Calomé. Bonne soirée sur JetFM.